Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Patrick Chapat, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez donné rendez-vous au Marécotte, au-dessus de Salvan. Vous êtes dessinateur, évidemment, on va en parler. Vous êtes sur scène aujourd'hui pour parler de votre métier et des secrets de la création. Pourquoi ce lieu? Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Eh bien, non, je ne suis pas un de ces jeunes voix qui prend son 4x4 pour aller chercher l'air pur. Mais presque, parce que je prends le train moi quand même. Hein. Mais ça fait quoi, 25 ans que j'ai posé un petit peu mes souliers de marche par ici. Et c'est un secret, hein, ça reste entre vous et moi. Mais donc, voilà, c'est un endroit où j'aime bien, on aime beaucoup être, on est bien. C'est
donc
très
un endroit
joli.
Ressource quoi.
Hein?
Un endroit ouais, ressource, pas oui, un endroit bien, partagé a priori.
Alors, si, il se trouve qu'il y a plein d'amis là autour. Du coup, malheureusement ou heureusement, on a amené toute une ribambelle de Genevois avec nous. Le village est un petit peu colonisé, désolé.
C'est à cause de vous ?
Un peu, parce qu'il y a des amis d'amis.
C'est un peu dangereux.
Bon, on fait tourner le commerce.
Oui,
hein.
Ouais, allez. C'est bien.
Et donc c'est un très joli coin. On est loin de Verbier et de ces embouteillages et de ces magasins de luxe.
Et puis
on
le
est...
train, hein, quel luxe hein, dans cette vallée de Salvan.
Ah, le train est un super bonheur. Ouais. Rien que je pourrais faire l'aller-retour, rien que pour voir le lac du côté de Vevey. Non, on a vraiment de la chance. Puis tout ça pour arriver dans, bien sûr, une des cinq merveilles du monde, comme l'a dit le magazine National Geographic, le Valais. Donc, vous avez de la chance et c'est gentil de la partager un peu avec nous.
Bon, vous avez dit Genevois, vous avez été New-Yorkais pendant un temps, vous avez été un citadin, vous êtes un citadin. Le rapport à la nature est important, l'isolement, la promenade, la méditation, que sais-je?
Alors, je suis un citadin, Genevois, fils d'une Libanaise et un peu jurassien, mais j'ai toujours grandi à Genève. J'ai mis du temps à comprendre que le stratus, c'était pas l'état normal des choses. J'ai mis vraiment du temps. Je crois que j'ai été adulte avant de comprendre qu'en fait, si on montait un tout petit peu, il y avait du soleil. Ça, donc, à ma grande stupéfaction. Mais j'ai épousé une vraie Suissesse, Anne-Frédérique Wiedmann, qui est journaliste. C'est une grande skieuse. C'est elle qui m'a un peu entraîné par ici. Et les balades, les promenades, c'est aussi elle qui a amené pas mal cet aspect-là. Oh. Moi, un peu fils de sa Libanaise de mère, je pourrais rester faire des petits dessins dans mon chalet toute la journée. C'est un peu mon travers.
Donc, se forcer à sortir.
Ouais.
C'est le défi. Bon, vous êtes dessinateur, évidemment, les romans vous connaissent bien. Ce qui est particulier avec vous, c'est que les Américains vous connaissent bien, les Allemands vous connaissent bien. On parlera de cet aspect international. Mais d'abord, le déclic, j'aime bien savoir un petit peu comment on décide un jour que le petit coup de crayon qu'on a et qui marche bien pour faire marrer les copains à l'école devient un métier. Enfin, je sais pas si ça a été le cas d'ailleurs.
Ben, il faudrait essayer d'identifier le déclic parce que j'ai toujours dessiné d'aussi loin que je m'en souvienne. Et c'est d'ailleurs ce que je raconte dans mon spectacle. C'est justement une manière d'ouvrir le rideau sur une partie de l'enfance et comment on en arrive là à faire ce drôle de métier qui est un drôle d'animal quand même. Mais c'est vrai que je dessinais comme tous les gamins et puis j'ai continué. Voilà. Donc déclic non, il n'y a surtout pas eu de décrochage. J'ai continué à dessiner. En fait.
J'ai rencontré le dessinateur François Marais, que vous connaissez peut-être, qui vient de sortir un livre dont on parlera dans quelques jours dans cette émission. Et j'ai trouvé chez vous une phrase très similaire à une des siennes, c'est de dire finalement tous les enfants dessinent. Et puis un jour ils abandonnent et lui ajoutait quelque chose en disant bon c'est parce qu'on leur met des règles, on leur dit c'est juste ou c'est faux, hein, à 15 ans à l'école ta perspective elle est pas bonne, puis du coup les gens se découragent et abandonnent le dessin.
Oui c'est ça, moi je dis tous les enfants dessinent puis après ils oublient, puis il y a ceux qui oublient d'oublier. Et c'est vrai que vers l'adolescence il se passe un truc, par exemple moi mon Benjamin avait tendance à bien dessiner, je pense que j'avais peut-être trouvé la relève, et puis là maintenant qu'il a... Une fois qu'il a passé le cap des 17 ans, j'ai vu qu'il a un petit peu lâché les crayons. Parce qu'en effet, on se pose la question de est-ce que ce qu'on fait est juste? Est-ce que ça marche? Est-ce que je vais pas être jugé? Et puis, on est intimidé par tout ça. Par sa propre création, en fait.
Intimidé par sa propre création?
Mais je crois, par l'effet qu'elle aura, par le jugement des autres.
Ça reste, ça? C'est comme la question du trac pour les acteurs chevronnés.
Non, justement, il y a ceux qui...
Vous avez toujours ce doute après 30 ans de carrière ou 25 ans de carrière.
Non, il y a ceux qui au contraire, persistent. Mais moi, je pense à ce Benjamin, mon fils, qui aurait pu... Ouais. C'est pas son prénom, hein, mais c'est le plus petit. Il aurait pu... je me suis même inspiré de certains de ses dessins. Il faisait les monstres d'une manière assez extraordinaire, avec cette fraîcheur et cette inventivité qu'ont les gosses. Et puis après, il y a le surmoi, voilà. On est tous victimes du surmoi, plus ou moins.
Bon, la presse suisse, pour commencer. La Suisse, hein, je me souviens, la défunte Suisse, vous y dessinez.
On fait de l'Aznavour, là.
Là, on fait de la spéléologie.
Que les moins de 20 ans ne peuvent vraiment pas connaître, la spéléologie.
On va revenir au temps présent, c'est le temps. Ça a été le New York Times, le Spiegel en Allemagne. Cette discipline quotidienne du dessin pour un quotidien, c'est quoi? C'est un muscle, ça s'entraîne. Quand on arrête pendant 2 mois en été, on a du mal à s'y remettre.
Assez, ouais. C'est un peu, c'est un travail d'athlète. C'est quotidien, donc c'est comme les muscles. Vous avez raison. Mmh. Il faut pratiquer tous les jours. Je suis totalement capable de prendre des vacances, contrairement aux vrais dessinateurs. Les vrais artistes, comme Zep, par exemple. Moi, je sais que quand il part en vacances, il remplit des carnets de croquis qui sont magnifiques, dont il fait des bouquins après. Moi, quand je pars en vacances, j'arrête de dessiner, vraiment. Et c'est vrai que reprendre ce muscle, ça demande un tout petit peu d'entraînement. Après, ça a aussi la vertu de... On retrouve une fraîcheur, parce que c'est vraiment un travail répétitif. Et je pense que le principal ennemi de ce métier, c'est la routine, vraiment. Plus que c'est un métier qui est confronté à pas mal d'obstacles et d'adversités, mais sa principale adversité, c'est la répétition.
Bon, moi, je me souviens du jour où j'ai appris que vous bossiez aussi pour le New York Times. Je ressentais, vous citez Zep, hein, on n'en a pas beaucoup de ces Suisses qui sont connus. Il y a Federer, il y a Zep, il y a vous, ils sont connus ailleurs qu'en Suisse. Il y en a sûrement évidemment beaucoup d'autres, mais comment, on parlera après de la fin de l'aventure, parce qu'elle est évidemment intéressante, hein, avec le New York Times, mais comment c'est arrivé cette affaire?
Bah en fait, vous savez, on est bête quand on est jeune, et j'étais jeune, j'avais 27 ans, lorsque, avec Anne Frédéric, donc qui est maintenant mon épouse, on s'est dit qu'on allait vivre à New York. On a fait top là, autour d'un plat de fruits de mer, et on s'est dit on va partir à New York. Et mon envie, d'abord on a fait un grand détour par l'Amérique latine, on a fait un voyage de 4 mois qui était un carnet de route dans l'hebdo, puis on est arrivé à New York, et ça c'est un de mes meilleurs souvenirs de liberté, c'est d'arriver sans retour par la Suisse, avec les sacs à dos pleins de linge sale dans les avenues de Manhattan, et de se dire maintenant faut s'établir.
Il faut commencer une vie, il faut trouver
un appart. Oh. Et je vous parle d'un temps, comme disait toujours le vieil Aznavour, avant le téléphone portable, où il faut mettre des pièces de 20 cents dans le téléphone pour essayer de trouver une location d'appartement. On a même dû, pendant 2 mois, dormir dans un hôtel, le meilleur marché qu'on a trouvé, où il y avait des drag queens noires homosexuelles
qui faisaient le tapin, c'était
vraiment du folklore, c'était New York comme dans les comédies musicales, et du coup...
Mais bon, on va frapper au New York Times avec un book.
C'était ça, je vous dis, on est jeune quand on est bête, donc je me disais je vais aller au New York Times et je vais devenir leur dessinateur de presse, parce que j'avais cette ambition ou cette envie de travailler pour le meilleur journal du monde, et je me disais c'est le New York Times, voilà. Et c'est chou, non? Et
c'est un peu atlantiste, mais bon.
Aussi, mais pas tout faux non plus. Et du coup, voilà, c'était mignon. J'ai frappé à la porte. On m'a expliqué très vite, on m'a recadré. On m'a dit, d'abord, il y a 20 art directors au New York Times. Donc, 20 personnes qui s'occupent. Chez nous, il y a une personne par journal qui s'occupe des images. Là, il y en a 20. Il y en a un qui m'a donné rendez-vous. C'est celui qui s'occupait du supplément littéraire du week-end. Et alors ça, c'est le côté pragmatique des Américains qui est assez extraordinaire. Ils reçoivent tous les dossiers, ils les renvoient, et ceux qui leur ont plu, ils leur donnent un rendez-vous. Donc j'ai eu un rendez-vous. Donc on est loin du copinage à la parisienne. Donc j'ai eu ce rendez-vous, et le type m'a dit « Ok, c'est bien, mais nous, on n'a pas de dessin de presse au New York Times et on n'en aura jamais. » Et j'ai dit « Super, mais je suis là pour faire autre chose. » Donc, on a fait de l'illustration, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce soit trop personnel, trop politique. Il ne fallait pas que ce soit trop un commentaire. J'ai détesté ça, mais je l'ai fait pendant 3 ans. Et puis après, Donc il y avait cette fameuse parole comme ça, il n'y aura jamais de dessin de presse au New York Times. Ils avaient une espèce de culture, parce qu'on ne contrôle pas l'opinion, le dessin de presse. Après, je suis rentré en Europe, je suis allé voir le Herald Tribune, qui était une émanation du New York Times et du Washington Post, et je les ai convaincus, eux, de m'engager comme dessinateur de presse. Puis ensuite, le New York Times a racheté le Herald Tribune, et donc je suis revenu par la fenêtre. On m'avait fermé la
donc
porte.
Donc, vous avez introduit et vous avez assisté à la sortie du dessin de presse du New York Times.
Exactement.
Parce que, en fait, via
le Herald Tribune, on a introduit le dessin politique au New York Times. Et bon, tout ça, je vous résume une histoire de 18-20 ans. Ça a duré presque 20 ans. Et du coup, je me retrouvais au New York Times en me souvenant des paroles de cet art director. Et oui, ils ont osé pendant quelques années avoir du dessin de presse, mais en effet, ça s'est terminé en 2019. C'était une sorte de parenthèse bénie où un journal précautionneux et important comme le New York Times mondialement connu et diffusé, a quand même eu un peu de culot. Voilà.
Bon, et ça s'est terminé à cause d'une caricature, pas la vôtre pour le coup, un de vos collègues dessinateurs portugais dont le dessin avait été repris, publié, gros problème, c'était une caricature de Trump avec Netanyahou, et ils ont décidé d'arrêter.
Voilà, et c'était aussi une histoire de succession, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur plus jeune qui a pris la relève, étonnamment, qui a mon âge, et puis lui, face à une controverse, a montré beaucoup moins d'appétit pour le fait d'affronter ça. Il était peut-être aussi moins fan du dessin politique. Alors autant j'avais réussi à convaincre son père, en fait, qui n'était pas réputé aimer le dessin de presse, que ça valait la peine d'essayer. Autant là, dès qu'il y a eu une controverse, et c'est très moderne finalement, c'est un peu symptomatique de notre époque, bah là l'éditeur s'est dit, oulala, principe de précaution, il vaut mieux... Puisque les dessins, encore une fois, un dessin qui n'était pas de moi, mais puisque les dessins peuvent causer des soucis, il vaut mieux renoncer à tous les dessins.
Ça fait réfléchir évidemment sur les types de renoncements qu'on peut avoir aussi sur des articles, sur des enquêtes, sur des produits journalistiques.
Ah ben s'il avait filé la même logique, s'il faut supprimer un genre parce qu'un article a posé problème, il fallait supprimer par exemple les opinions, parce que si tout d'un coup un édito crée une polémique, peut-être que selon le même principe, on pourrait supprimer tous les éditos.
Bon, vous êtes un journaliste. Vous avez une carte de presse ?
Oui, j'ai une carte de presse parce que j'ai fait une formation de journaliste écrit, en fait.
D'accord.
Jadis.
Mais bon, votre travail est journalistique depuis longtemps, depuis toujours. On arrive déjà à la fin de cette première partie. On va parler du spectacle et puis un peu de la liberté qui est une de vos luttes, hein, un de vos combats, bah, notamment depuis cette affaire du New York Times. On se retrouve dans un instant.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Patrick Chapat, on se retrouve pour parler de votre carrière, mais aussi et surtout de ce spectacle que vous allez donner au Théâtre du Crocheton. Ça sera les 27 et 28 novembre. Le 27, c'est déjà complet. Il y a encore de la place pour le 28 novembre. Bon, on parlait de cette aventure qui se termine au New York Times parce que la peur des polémiques. Et puis, évidemment, 2015, Charlie Hebdo, l'aventure du dessin qui se termine dans la mort, dans le sang. Et puis alors, depuis, une crispation totale dans les deux sens, des deux côtés. Fait pas bon être dessinateur de presse en ce moment ?
Ah, c'est un job intéressant, c'est animé en tout cas. Donc... Non, il fait bon être dessinateur de presse, mais on se prend un peu des coups de tous les côtés. Et autant ces dernières années, on a vu monter de plus en plus des intolérances, des susceptibilités, ce qu'on appelle le wokisme, mais j'essaie de ne pas utiliser les mots un peu bateaux, wokisme, fascisme,
il est très galvaudé. Ce
très galvaudé. Ouais. Mais en tout cas, une susceptibilité générale, on a parlé du principe de précaution mis en place par le New York Times. C'est très dans l'époque, les institutions, les médias ont très peur des polémiques. Et il y a beaucoup de gens, des activistes ou pas, qui savent comment utiliser les réseaux sociaux et créer des polémiques. Donc dès qu'il y a un contenu qui est jugé pas très drôle ou d'un humour de mauvais goût, on peut se faire ramasser. Puis ce qui est récent maintenant... Ce qu'on voit, ce que j'ai vu depuis deux semaines avant l'arrivée de Trump, c'est le réveil vraiment assez vociférant des Trumpistes locaux. Alors, on a toujours en Suisse eu une culture du débat avec des différences politiques assez nettes. Hein. L'UDC fait partie du paysage suisse, elle l'influence beaucoup. on a des débats, mais assez polis. Mais là, ce que le Trumpisme libère, c'est l'invective, la méchanceté, l'insulte. Et alors, X est devenu le réseau où tout se déverse. Et donc, c'est nos petits Trumpistes locaux qui, de plus en plus, invectivent, insultent. Donc, vraiment, c'est assez animé.
Il y a quand même quelque chose qui a changé. Hein. Je veux dire, vous référez volontiers à Daumier, hein, le papa, votre grand-papa, dessinateur de presse, ou précurseur du dessin de presse fin du 19e siècle en France, avec ses critiques de la royauté. Voilà, on avait un dessin qui affrontait les puissants, et puis on a mis un siècle en Europe à l'accepter, finalement, hein, à ce que ça devienne une normalité. Par contre, on avait dans les dictatures, en URSS, en Amérique du Sud, un dessin qui pouvait vous envoyer à la mort ou en prison. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a quand même évolué dans le mauvais sens, y compris dans nos démocraties soi-disant apaisées, hein, mais vous venez de le dire, elles ne le sont pas tant que ça. On peut toujours donner des leçons aux dictateurs, mais on peut aussi se regarder un peu le nombril du point de vue de l'intolérance et de cette censure apparente ou claire.
Oui, parce que... Mais là aussi... Moi, comme vous le dites, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui m'est cher et je crois qu'il faut défendre et qui s'inscrit dans une histoire. Et la liberté du dessin de presse, vous citez Daumier, donc elle est née au 19e siècle en France avec la liberté de la presse. Et quelque part, le dessin de presse est né en France, je crois qu'on pourrait dire ça. Et puis, je connais très bien, parce que j'ai une fondation à Genève où on décerne un prix tous les deux ans à des dessinateurs dans le monde. Je connais de près la réalité de la censure et du pouvoir. Et là, il n'y a pas à couper les cheveux en quatre et à pousser des cris d'orfraie. Là, on est vraiment face à la répression. On risque la prison ou sa peau. Et c'est ces dessinateurs-là qu'on salue.
C'est pas encore le cas chez nous, mais
c'est
on risque son
cas
job.
Chez nous.
On risque son
mais
job
chez nous,
aujourd'hui,
par contre,
c'est clair.
Oui, on risque son job. Et de manière générale, je pense que le discours... sur le mode américain est en train de se durcir vraiment. Mmh. Et cette culture du clash qui est celle des réseaux sociaux est en train de nous gagner tous, en fait. Et en train de gagner le discours politique suisse aussi. Et je pense que les politiciens sont les premiers à le voir. Je suis sûr que si vous leur posez la question...
Oui, je leur pose la question. C'est une de mes marottes, hein, de voir comment... Ben, on sait qu'on a toujours 20 ans de retard sur un peu le reste du monde. Hein. En Suisse, les choses viennent plus doucement. Puis c'est tant mieux, hein, pour le coup. Mais enfin, ce qu'on voit aux États-Unis depuis 30 ans, on le voit en France depuis 10. Et puis on commence à le voir émerger un peu ici du point de vue de la violence du débat public. Mais vous êtes maintenant dans un monde de spectacle, il faut qu'on en parle quand même, parce que c'est pour ça que je suis venu. J'ai vu un TEDx de vous, enfin un TED, hein, une conférence TED où vous parliez justement de ces questions de liberté de la presse, c'était juste après l'affaire du New York Times. Là, c'est différent l'exercice, hein, peut-être que vous faites un peu de ça aussi, mais je ne l'ai pas vu moi le spectacle. Mmh. Vous allez aussi dans l'intimité de la création, c'est bien comme ça que je l'ai compris, comment ça fonctionne là-dedans quoi, le cerveau.
Oui, il y a plusieurs choses dans ce spectacle, je ne vais pas tout vous dire, mais les conférences ont certainement été quelque chose qui m'a formé à être devant un public et décliner des dessins d'une manière différente et voir que les dessins, ça marche en fait en live. Les dessins font du stand-up, les dessins font réagir.
Ah, les rires sont immédiats. Hein,
et, ça, c'est, ouais. Et ça, c'est sympa, on se dit, tiens, il se passe un truc. Et ensuite, le spectacle, c'est une autre manière de faire passer, à part des blagues de temps en temps, des idées, et de le faire de manière légère. Là, on a une discussion super sérieuse, voire même assommante pour vos pauvres auditeurs, mais à travers un spectacle d'une heure et quart, on peut faire passer certaines de ces idées en faisant rire les gens, en le faisant par l'illustration, par l'exemple, hein, rien de tel que deux, trois bons dessins, même sur la limite, pour nous montrer justement quelles sont les limites et comment ne pas tomber ou tomber dans le mauvais goût. Enfin, se poser ces questions-là avec le public qui est là et qui rigole et qui participe et qui trouve du plaisir. Donc c'est vraiment... c'est du coup, on est loin des invectives et on est dans un échange qui, je crois, est un bon moment. Enfin, moi, je passe un bon moment, en tout cas, j'ai l'impression que les gens aussi.
Qui amène forcément une réflexion, hein. Si on a ces questions de chapelle, tel dessin va vexer telle communauté, etc., on peut soi-même se regarder puis se demander qu'est-ce qui, moi, me vexe, qu'est-ce qui m'effarouche. Hein.
L'humour, c'est d'abord se moquer de soi et après, gentiment, des autres. On est d'abord l'objet de son humour. Le bonhomme à gros nez qui est au milieu de la moitié de mes dessins, c'est moi. C'est moi le beauf de Cabu, je ne sais pas si c'était Cabu, mais nécessairement, d'abord, on se moque de soi, mais il faut aussi pouvoir se moquer des autres, gentiment, pour faire communauté. Et c'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui, hein, quand on dit qu'il faut justifier, enfin l'humour n'est justifié que par son, enfin on ne peut faire que l'humour que sur ce qu'on connaît ou par rapport à son identité propre. Quand on veut diviser la société en identité, eh ben ça donne quelque chose de compliqué dans mon cas, parce que je suis mi-jurassien, mi-libanais, mais libanais melkite, donc ça fait un tout petit groupe. Si vous voulez, je ferais pas rire grand monde.
Melkite, c'est chrétien libanais, hein, c'est ça?
C'est catholique, libanais, ouais. Contrairement aux maronites qui sont les autres chrétiens libanais. Donc vous voyez, les questions d'identité, enfin tout ça, je m'en amuse un petit peu. Et j'en ai fait un spectacle où je parle aussi de mon enfance, on en a un petit peu parlé avant. Puis il y a un petit peu de dessin en direct aussi, parce que je crois qu'il y a un vrai plaisir à voir le dessin se faire. Et ça, c'est un fil rouge. Et ce fil rouge, j'arrête pas de l'abandonner et de me lever pour partir dans des digressions sur tous ces sujets dont on parle aujourd'hui.
La palme blanche, ça existe ?
La panne blanche. La panne de la page. Non, pas vraiment.
Non.
D'abord, j'ai un truc contre la panne de la page blanche que je donne dans le spectacle. Mais surtout, il y a toujours des idées, mais elles ne sont pas toujours bonnes. Il y a des fois des mauvaises idées, ouais. Voilà, et des mauvais dessins.
On se fait refuser des dessins quand on est chapate aujourd'hui?
Oui, bien sûr, mais... Enfin, pas très souvent, non.
Comment ça marche? C'est un petit truc, hein. C'est peut-être dans le spectacle, mais vous envoyez un croquis...
Mais
vous
tout
envoyez
est dans
pas
le spectacle,
oui,
monsieur.
Mais bon,
achetez donc ce fichu billet.
Donnez-moi un petit bout. vous faites un croquis sommaire pour le proposer à la rédaction avant de l'élaborer? Pour savoir si ça va être oui ou non.
Vous allez vraiment stupéfait, parce que je fais plusieurs esquisses et je fais voter. Je fais voter des gens dans la rédaction.
Ah ouais.
Et je fais un sondage. Et après, je décide ce que je veux. En fait, le vote me sert à avoir un feedback sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. En fait, le vote me sert à éliminer. Et au crochetant, je vais aussi demander aux gens de voter sur la base des esquisses qu'ils auront vues.
Bon.
Ils vont jouer le rôle de la rédaction, en fait.
J'aimerais finir avec un truc pas drôle. Vous avez déjà dit que c'était ennuyeux, cette interview. Donc, mais bon, voilà.
C'est surtout
il
moi.
Se trouve
hein.
Quand, il se trouve quand.
Vous êtes rigolo.
Oui, je vous remercie, mais je ne sais pas dessiner, par contre. Mais il se trouve qu'en cherchant un peu des articles sur vous, etc., j'ai retrouvé le reportage que vous avez fait à Gaza en 2009. BD reportage qui avait été publié dans Le Temps. Et j'ai failli pleurer, je vous le dis sincèrement, parce que tout est là. La mort aléatoire, la prison à ciel ouvert, les histoires terrifiantes d'enfants, etc. Comment vous voyez la période actuelle?
Et encore, c'était rien par rapport à ce que Gaza vit aujourd'hui. C'était
sur une portion du territoire, contrairement à aujourd'hui.
C'était une petite invasion israélienne, entre guillemets. On peut la relire sur bdreportage.com, d'ailleurs. Mais... ce que j'ai vu, j'ai même pas tout raconté parce qu'il y a des choses qui étaient tellement excessives qu'il aurait fallu trois vérifications, et dans un travail journalistique on a besoin de recouper les informations, et il y avait des atrocités qu'on m'a racontées et d'autres que j'ai vues, et c'est vrai que c'est stupéfiant, enfin on est dans un monde stupéfiant, j'avoue que je sais pas si l'humour y suffira, l'humour qui est l'exorcisme pour avaler tout ça, mais dans le spectacle au crochetant je vais tester un ajout au spectacle d'une dizaine de minutes. Donc ça va être plus long, mesdames et messieurs, vous en aurez pour votre argent.
Bah, il y a Trump qui est revenu.
Non, j'aimerais ajouter une partie d'un reportage BD sur ma tante de Beyrouth et sur le sud Liban. Parce que je me suis dit, tiens, vu l'actualité, vous avez parlé de Gaza, maintenant ça se passe également au sud du Liban. J'ai envie de parler de ce personnage qui était ma tante de Beyrouth, qui est décédée aujourd'hui. Et avec elle, on est allé au sud du Liban. Et donc je vais emmener les gens un petit peu là-bas et faire une petite allusion à l'actualité.
Vous en avez fait plein de ces BD reportages hein, dans plein de pays du monde. Ça fait un petit moment, je crois, que les derniers sont parus. Vous le faites plus ou c'est des trucs qui intéressent plus les rédacs?
Bon, le dernier, si on veut, c'était un bouquin sur le Covid. Donc, c'est vrai que ça remonte à 2022. Mais c'était un bouquin de longue haleine sur, au cœur de l'hôpital de Genève et à l'intérieur de ce qu'on a vécu, ça s'appelait « Au cœur de la vague ». Et des reportages comme ça, au débotté, j'ai beaucoup moins le temps d'en faire. C'est vrai, j'ai de la peine à caser ça, parce que j'ai...
Bah, y a le spectacle.
J'ai le spectacle, voilà. Ouais. Ah, on ne peut pas tout faire dans la vie, plus tous ces journaux qui attendent des dessins. Donc actuellement, c'est vrai que je me concentre un peu là-dessus. Je fais un peu de la télé avec Arte tous les mois. Donc, on ne chôme pas, hein.
Bon, moi, j'ai plein d'invités. Il y en a plein qui me disent « je peux pas à telle date », etc. Mais vous êtes le seul, probablement. Enfin, le premier est probablement le seul qui m'a dit « ah non, non, cette semaine-là, je peux pas. Il y a les élections aux États-Unis.
» Bah oui, j'avais rendez-vous avec Trump.
Bah oui.
Et hélas, il est venu.
Merci Patrick Chapat.
Merci.